Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous allons voir un petit passage de l'Ancien Testament, de la Bible. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, il y a un verset en particulier qui clignote toujours dans notre esprit. Et que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Notez que ce verset dit toutes les Écritures, ce que signifie clairement l'ensemble des Saintes Écritures, pas seulement le Nouveau Testament, comme certains peuvent le penser. La Bible est inspirée par Dieu. Et c'est marqué que c'est pour enseigner. Elle nous est donnée pour que nous puissions apprendre les versets, les voies de Dieu et de lui-même. Chaque fois, nous ouvrons la Bible pour comprendre la voie de Dieu, la volonté de Dieu et de Dieu lui-même. Et pour convaincre, afin que nous soyons pleinement convaincus de quoi et en qui nous avons mis notre confiance, notre foi. Pour corriger sur le chemin de notre vie, nous trébuchons dans les erreurs, nous tombons dans le péché de doute et de désobéissance, s'insinue pour nous éloigner de notre Seigneur. Et quatrièmement, pour instruire dans la justice. Nous savons tous combien nous manquons d'instruction. Il n'y a personne ici dans la salle qui peut dire que je n'ai pas besoin d'instruction. Et chaque fois on achète un appareil, on cherche le manuel pour comprendre comment l'appareil peut fonctionner. Et pareil pour la vie, hein, la Bible est donnée comme le manuel de la vie par Dieu même. Les soi-disant grandes institutions de l'enseignement ont certainement échoué lamentablement dans ce monde. Si nous pouvions simplement nous arrêter pour voir autour de nous l'état pathétique des valeurs morales dans ce monde où nous vivons. La Sainte Bible est une lettre d'amour de Dieu, notre Créateur, à toute l'humanité. Mais tout le monde ne lit ni ne comprend l'importance de la parole de Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment aimons-nous et chérissons-nous sa parole? Ça, c'est la question pour nous, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est écrit pour l'homme de Dieu, pour un enfant de Dieu. Donc ce matin, nous allons traiter de la question de savoir comment un enfant de Dieu devrait faire face au moment de crise dans sa vie. Vous pouvez demander qu'est-ce que c'est la crise. On peut parler de crise économique, la crise sanitaire, récemment, il y a 2 ans, on vient de sortir à peine. Et il y a la crise dans le monde et même dans notre vie personnelle, on peut tous, à un moment ou l'autre, on peut traverser un moment de crise. Et nous savons que quand ils viennent, ça peut être insupportable. Et on peut pas dire que le problème qu'il est en train de rencontrer, c'est moins lourd que le mien. Et chacun, le fardeau de chacun est lourd pour lui, pour le porter. Certes, nous avons tous traversé des problèmes dans nos vies et parfois nous nous voyons immergés dans une crise et nous ne voyons pas l'issue. Dieu semble être éloigné pour nous. Nous pouvons même nous sentir abandonnés par tous, abandonnés par les hommes et Dieu. Le tunnel est si long que nous ne pouvons voir la lumière au bout du tunnel. Comment réagissons-nous aux problèmes auxquels nous sommes confrontés dans nos vies? Êtes-vous incité à croire le conseil de certains chrétiens charismatiques selon lequel l'enfant de Dieu n'est pas destiné à souffrir de maladies ou de tout inconfort dans ce monde? Mais Dans le monde où nous vivons, on trouve parfois des chrétiens qui disent que ce n'est pas normal qu'un chrétien il peut souffrir. Il souffre de maladies ou d'autres problèmes économiques. Hein. Et cela semble si apaisant à entendre, mais c'est quelque chose de si éloigné de la vérité biblique. Dans le plus ancien livre de la Bible, Job note que l'homme est né dans les ennuis et donné à l'adversité, soulignant que la réalité des problèmes est aussi commune et fiable que les étincelles volant vers le haut d'un feu de camp. Job 5, 7, l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Quelle est la première chose que vous faites en cas de problème ou de crise? On peut faire, on a le choix, on peut faire comme l'autruche. Il paraît que l'autruche, il met la tête dans le sable et il ignore, il renie, un reniement total pour dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Et beaucoup de gens qui font ce type de choses. Et après, bon, on a des pensées pour dire qu'il faut penser positive. On nous entendons tous les jours dans notre vie. Les gens ils disent qu'il ne faut pas penser négatif, il faut penser quelque chose de positif et tout ira bien. Est-ce que c'est vrai? Tout le monde a des problèmes de temps en temps et nous le savons que les enfants de Dieu ne sont pas exclus des problèmes ou des crises dans leur vie. Et tout le monde n'essaie pas de résoudre ces problèmes de la même manière. Quelle est la meilleure façon? Tous les grands hommes et femmes de la Bible ont souffert dans leur vie. Ça suffit de tourner la page de la Bible. Nous pourrons vite connaître que tous les hommes et des femmes dans la Bible, mentionnés dans la Bible, ils ont souffert dans leur vie. Tous ont eu à un moment donné ou autre dû faire face à une crise dans leur vie. Écoutez le cri de Jonas. Maintenant, Éternel, prends-moi dans la vie, car la mort m'est préférable à la vie. On peut imaginer à quel point cet homme il était le plus bas dans sa vie. Dans le moment de crise, il dit que maintenant, Éternel, prends-moi dans la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Et le grand prophète Élie, assis sur un genêt, et demande à la mort en disant, « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » 1 roi 19, 4. Mais tous ces hommes, ils ont connu le moment de gloire, et maintenant on voit qu'ils sont en train de lamenter, ils sont en train de pleurer. Imaginez, le grand prophète Élie, il était sur le mont Carmel en train de faire les grandes choses pour le Seigneur. Et après, il se voit dans une caverne, une grotte. Il dit que il demande la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » 1 roi 19:4. Et si vous voulez entendre le prophète Jérémie, maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il était né un enfant mâle et que le combla de joie. Jérémie 20, 14 à 15. Jérémie, maudit soit le jour où je suis né. Et dans le malheur, bien souvent, les hommes, ils ne savent pas quoi dire, quoi faire. Et parfois, on peut dire n'importe quoi. Même en tant que les enfants de Dieu, parfois, on peut entendre les choses pareilles. Écoutez ce que la parole de Dieu dit à Moïse. Moïse. Moïse fut attristé et dit à Éternel, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple. Car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. C'est assez sombre, n'est-ce pas, tout ça? Quand nous voyons les enfants de Dieu souffrir dans le moment de crise, comment ils sont conduits, comment ils sont agis. Et notre Seigneur Jésus lui-même a eu ces moments de détresse et de crise. Il prit avec lui Pierre et deux fils Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Mais si vous sentez que vous passez par un moment de crise, mais il ne faut pas oublier que même le Seigneur, il a passé par ce chemin. Il commence à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit ainsi, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Mais là, au bout, il cherche désespérément la compagnie de ses disciples, mais il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Si vous voulez dresser une liste des enfants de Dieu qui ont souffert dans leur vie et ont été affligés jusqu'à la mort, vous trouverez aussi l'homme selon le cœur de Dieu, le roi David. Une personne dans la Bible qui avait plus que sa part de problèmes était le roi David. Par exemple, il a été poursuivi par le roi Saül. Je pense que quelque part la parole dit qu'il était pourchassé comme un rat dans la montagne. Il a été poursuivi par le roi Saül. Il a échappé de justesse à plusieurs tentatives d'assassinat. Il a dû passer beaucoup de temps à se cacher dans le désert. Toute sa famille a été enlevée à une occasion. Ses amis se sont retournés contre lui et étaient prêts à le tuer. Il a souffert de la honte d'avoir commis l'adultère et le meurtre. Son fils Amnon a violé sa fille Tamar. Son autre fils Absalom a assassiné Amnon. Absalom mena une révolte contre son père. Absalom lui-même a été tué au grand chagrin de David. Dois-je continuer? David était certainement un homme avec beaucoup de problèmes. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il a survécu à tous et on se souvient de lui comme un homme selon le cœur de Dieu. Comment a-t-il pu faire cela? Je crois que nous pouvons trouver la réponse en considérant ce que David a fait face à l'un de ses problèmes les plus graves, comme indiqué dans, je vous demande de prendre 1 Samuel, livre d'1 Samuel, chapitre 30, on va lire les six premiers versets. 1 Samuel, chapitre 30. On va lire les six premiers versets de ce chapitre 30 de 1 Samuel. Lorsque David arriva le troisième jour à Siklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Le verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Vous voyez le chagrin de ces gens, le chagrin de David. Ils ont pleuré tellement qu'il n'avait plus de force pour pleurer. Est-ce que ça vous arrive à des moments ainsi? On a envie de pleurer. On a envie de pleurer. Mais parfois, on n'a pas la force pour pleurer. Le verset 5, les deux femmes de David avaient été amenées, Ahinoam de Jisréel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Verset 6, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Le passage que nous venons de lire nous dépeint le contexte dans lequel nous trouvons David. Il est à noter que cette crise dans la vie de David se produit quelque temps seulement avant qu'il ne devienne le roi. Nous allons d'ailleurs nous concentrer ce matin sur le verset 6. Nous avons le problème dans ce passage et aussi bien que la solution dans ce passage. À cette époque de sa vie, David vivait à Siklag. Ayant fui le roi Saül, il était maintenant aligné avec les Philistins. Les Philistins se préparaient à combattre le roi Saül. Et David et ses hommes étaient aller se joindre aux Philistins. Mais les Philistins n'avaient pas pleinement confiance en David alors qu'ils l'ont renvoyé, lui et ses hommes, à Siklag. Vous savez, il y avait une inimitié constante entre le peuple d'Israël et des Philistins. Et David, quand il a commencé sa vie, il a combattu Goliath, le Philistin, le géant Philistin. Donc il y avait une animosité, il y avait un combat constant entre les Philistins et le peuple d'Israël. Mais ici, on voit que David, il se rejoint les Philistins pour combattre Saül. En lisant ce passage, nous trouvons que la ville de Siklag avait été attaquée et incendiée par les Amalécites. Le verset 1. Dans le verset 2 à 5, les femmes et les enfants avaient été enlevés, y compris ceux de sa famille. Donc, ils sont amenés captifs, toutes les femmes et tous les enfants. Et il n'y avait pas des autres personnes amenées captives. Donc, ils sont amenés toutes les femmes, et certainement pour faire des esclaves. Ça, c'était le coutume de la guerre de cette époque. Et aussi, nous voyons que dans le verset 6, naturellement, David était en détresse. David était en détresse. Mais en plus de cela, les gens sont prêts à le tuer pour ne pas avoir été là quand on avait besoin de lui. Parce que, justement, dans le moment de crise, les gens, ils peuvent faire n'importe quoi. Et bien souvent, ça arrive ainsi. Et dans le moment de crise, les gens, ils peuvent... Ici, ils demandent la tête de David. Ils voulaient lapider David. Mais remarquez bien la dernière partie du verset 6. Que fait David quand il a perdu sa famille et que sa propre vie est menacée? David, il a perdu toute sa famille, ainsi que son peuple qui le suivait. Il était presque un roi en exil. Et comment il a agi, David? Les Écritures disent, mais David se fortifiait dans le Seigneur, son Dieu. Il se fortifiait dans le Seigneur, son Dieu. C'est ce que David a fait en premier dans le moment difficile. Est-ce que ça nous arrive à avoir la même pensée? Quand nous nous trouvons dans le moment de crise, comment nous agissons? Qu'est-ce que nous faisons? Et qu'est-ce que ça veut dire fortifier dans le Seigneur? Fortifier dans le Seigneur notre Dieu. Et la parole nous dit qu'il s'est fortifié dans le Seigneur son Dieu. Avec la force qu'il a reçue, il a ensuite été en mesure de faire face à n'importe quel problème qui se trouvait devant lui. Mais qu'est-ce que signifie fortifier dans le Seigneur son Dieu? Dans un effort pour répondre à cette question, je trouvais utile de considérer certains des psaumes écrit par David pendant la période difficile. Comment David se fortifiait dans le Seigneur, son Dieu, dans les moments difficiles? David composait souvent des psaumes. Je ne sais pas si ça vous arrive d'écrire les choses, les chants de louanges, même si ce n'est pas poétique. Est-ce que ça vous arrive d'écrire des louanges? Mais pour écrire des chants et des louanges, il faut méditer sur le sujet. Il faut méditer sur le Seigneur. Si on n'a pas la pensée profonde, si on ne médite pas, on ne peut pas écrire des chants. Et David, il se composait des chants. Dans le livre de Psaumes, dans les autres livres, on a plein de chants, plein de cantiques que David il a écrit. Il paraît qu'il y a un oiseau, le moineau grive. Il y a quelqu'un qui a écrit dans son journal de voyage. Le moineau grive chante beaucoup de beaux chants. Il y a une chanson que le grive chante qui est incroyable. Le moineau grive est connu pour chanter son plus beau chant quand il est dans une tempête terrible et dangereuse. Et quand il est grièvement blessé, ça nous dépasse, n'est-ce pas? Comment un être vivant, il peut chanter dans le moment de crise terrible, quand il a peur, quand il est désespéré. La tempête ne peut jamais arrêter le chant. Plus le monogrive chante fort, plus la tempête fait rage. Et ainsi, c'était la vie de roi David. Vous savez, si vous allez marcher sur une rose, une fleur, la rose, elle amènera le parfum. Il ne peut pas amener une autre chose que le parfum. Un enfant de Dieu, il restera toujours un enfant de Dieu. Il ne peut pas être autre chose. Et le psaume 59, je vais lire ce passage pour vous. Psaume 59, les premiers 4 versets. Ne détruis pas l'hymne de David. Lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir, mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang, car voici, ils sont agués pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable, sans que j'aie péché, ô Éternel. C'est un cri au secours. Et ce psaume, il commence ainsi. Et quand un enfant de Dieu crie à Dieu, il crie au secours à Dieu, ou demande le secours de Dieu, ça devient un psaume, un cantique. C'est Dieu, il veut entendre ce psaume. Dieu veut entendre ce chant. Et le verset 17 à 18, « Et moi, je chanterai ta force. Et moi, je chanterai ta force. » Même s'il était sans force, David, il se trouvait sans force pour se défendre, pour faire quoi que ce soit. Et David, il dit, « Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. » Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Mais quand nous sommes rien, quand nous ne pouvons rien faire, mais on peut chanter la bonté de Dieu, on peut chanter sa grâce, on peut chanter sa miséricorde, on peut chanter de son salut, n'est-ce pas? Et moi, je chanterai ta force dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Car tu es pour moi une haute retraite. Qu'est-ce qu'on peut faire quand le monde entier il tourne? Parfois, peut-être ce n'est pas vrai, mais parfois, on peut avoir ce sentiment que le monde entier il est contre nous. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Pensez la puissance de notre Seigneur, notre Dieu. On peut dire que tu es pour moi une haute retraite. Une haute retraite. Et parfois, quand nous voyageons, nous voyons le château fort et nous voyons combien les rois de cette époque, souvent le château médiéval en Europe, combien ils ont pensé avoir une haute retraite. C'est souvent sur le haut de montagne. Ils construisent une retraite pour eux, un fort, que personne ne peut le toucher. Et David dit, « Et moi, je chanterai ta force dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. » Et souvent, quand les rois ils sont poursuivis par leurs ennemis, ils vont courir vers cette haute retraite, ce refuge. Regardez le psaume 56, on va lire le premier deux versets. Le psaume 56, et David, il était emprisonné à Gath. Gath, c'est la ville de Goliath. Il écrivait le psaume 56. On va juste lire le premier deux versets. Hymne de David, lorsque les Philistins les saisirent à Gath. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre. Ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains. Parfois, je pense que ce psaume, ça peut appliquer à nous. Hein? Je sais que parfois, nous sommes harcelés dans notre lieu de travail. Il y a quelques années, un frère, souvent, il disait qu'il était harcelé à cause de sa foi dans son travail. Les gens, ils moquaient de lui, il était harcelé à cause de sa foi. Et n'est-ce pas cette psaume apte à notre vie aujourd'hui? Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tous les jours, ils me font la guerre, ils me tourmentent tous les jours. Mes adversaires me harcèlent, ils sont nombreux, ils m'en font la guerre comme des hautains. Et encore le psaume 3, si vous voulez tourner avec moi, le psaume 3, on va lire le psaume 3 entier. Cette psaume... La parole nous dit que David il a écrit ce psaume, il a chanté ce psaume quand il était en train de fuir son fils, son propre fils, Absalom. Absalom a rébellé contre son père David. Il était en train de fuir de son royaume, de son fils Absalom. Psaume à David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi? Combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu? Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Il est en train de fuir son fils Absalom. Je pense qu'il était dans le désert en train de cacher de ses ennemis. Mais dans le verset 5, il dit, je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Un enfant de Dieu, pendant le moment de crise, il peut avoir ce paix absolue, n'est-ce pas? Il peut avoir cette paix absolue. Mais moment de crise, mais on sait tous, nous savons tous que on dort pas assez, on dort pas bien, on passe la nuit blanche, n'est-ce pas? Mais pour un enfant de Dieu qui confie en l'Éternel, ce n'est pas le cas. Si on n'a pas bien dormi, ça veut dire que on a gardé le fardeau de notre problème, de notre souci sur nos têtes. Mais ce n'était pas le cas de David. Je me couche, je m'endors et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. quand tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents de mes méchants, des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. C'est magnifique, n'est-ce pas, le psaume que David il a pu écrire. Et pourquoi David, encore une fois, dans le passage que nous avons devant nous ce matin, comment il a pu se fortifier dans le Seigneur. Il a médité la parole de Dieu, il a médité la bonté de Dieu, il a pu méditer la grâce de Dieu, le salut de Dieu. Mais nous avons la Bible entière pour nous consoler, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que David il avait? Il avait que des Pentateuques. Il n'avait que de Pentateuque, les cinq premiers livres et quelques livres de prophètes. Mais qu'est-ce que David il avait? Mais pourtant, nous ne nous ressourçons pas dans la parole de Dieu. Nous ne puisons pas dans la source de la parole de Dieu. Et encore, nous allons lire le psaume 63. Le psaume 63. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Et il était caché du roi Saül dans le désert de Juda. Le désert, ce n'est pas un endroit très confortable, n'est-ce pas? Ce n'est pas un endroit très confortable, mais il était environné par les ennemis, toujours en train de fuir l'attaque de son ennemi. Et psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Peut-être ses ennemis ils sont en train de chercher David. Mais David, il est en train de chercher Dieu. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Et nous avons chanté ce cantique qui est tiré de ce psaume. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Le verset 3, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Mais je ne pense pas que David il avait des mets succulents. Il avait d'abri. Je ne sais pas dans quel état il était dans le désert. Mais il a pu penser le sanctuaire de Dieu, la sainteté de Dieu. Il dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mais il était en train de fuir le roi Saül pour garder sa vie. Mais il dit que car ta bonté vaut mieux que la vie. Même si Saül, il peut me ôter la vie, mais ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lève ma main et ton nom, en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Mais parfois, nous sommes assis confortablement. Je pense qu'on est assez confortablement assis dans ce bâtiment. Mais nos lèvres refusent de chanter le louange de Dieu. On vient pour cette raison, mais pourtant, on refuse de chanter la bonté de Dieu. Il faut visiter les autres pays qui n'ont pas ce privilège comme nous avons. Il y a beaucoup de gens qui sont persécutés dans beaucoup d'autres pays dans le monde et ils chantent la bonté de Dieu, comme David l'a chanté dans le désert. Regardez le verset 6. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient, mais ceux qui cherchent à me ôter la vie iront dans la profondeur de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Donc, il y a une part, on trouve l'ennemi de David, une part, on trouve Dieu, le Dieu de David, et on voit David dans le désert. Et David, il n'était pas seul. Et pendant ce moment d'immense crise qu'il a pu traverser, David se fortifiait dans le Seigneur, son Dieu. Le psaume 59, nous apprenons que David était déterminé à continuer à louer Dieu pour son aide. Dans le psaume 63, nous voyons que David a surmonté son problème de solitude. Nous voyons dans les premiers deux versets, il cherche le Seigneur et il loue et prie le Seigneur, versets 3 à 5, et 6 à 7, David médite sur le Seigneur. Et si nous n'avons pas l'habitude de méditer la caractéristique du Seigneur, l'attribut de notre Seigneur, alors nous n'allons pas découvrir tout un coup pendant le moment de crise. Et c'est une vie à vivre avec le Seigneur pour apprécier le Seigneur, pour apprécier ce qu'il est. Dans chacun de ces psaumes, David dit essentiellement la même chose. En période de trouble, mettez votre confiance dans le Seigneur. En période de trouble, mettez votre confiance dans le Seigneur. Restez près de lui en le louant et en le priant pour son secours. Le Seigneur, ce n'est pas un roue de secours qu'on pense de temps en temps. Il devrait être notre volant. Restez près de lui en le louant et en le priant pour son secours. Faites cela et vous serez rendu fort si le Seigneur vous soutient. C'est ainsi que David s'est fortifié dans le Seigneur son Dieu et a été capable d'affronter, surmonter ses problèmes avec l'aide que le Seigneur lui a donnée. Et nous aujourd'hui, en période de difficulté, suivons-nous l'exemple de David? Comment nous affrontons nos problèmes, nos soucis, nos fardeaux? Est-ce que nous succombons au moment de crise ou nous remontons comme David? Faire face à nos problèmes. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nombreux problèmes, même en tant que chrétiens. Nous, les chrétiens, on n'est pas épargnés des problèmes. Nous avons notre part de problèmes. Et certains sont liés à la famille ou d'autres d'intérêt personnel, problèmes de santé. Certains sont liés à l'emploi et à la question de sécurité financière. Et c'est sûr que chacun traverse par un moment difficile, si ce n'est pas maintenant, mais à un moment donné dans notre vie. Imaginons un couple qui vivait pendant 50 ans et tout d'un coup, un qui part, et quelle crise que l'autre personne devrait subir. Et tout d'un coup, on peut perdre notre emploi, on ne sait pas quoi faire. Quelle crise on peut subir. Dans de nombreux cas, les gens essayent de résoudre seuls leurs problèmes. On pense que nous pouvons gérer nous-mêmes nos problèmes. Mais souvent, les enfants, ils ont la tendance à dire que je gère, je m'occupe. Les parents, ils ont souvent le souci. Non, mais fais attention, mais non, t'inquiète. Et ça, c'est... Bien souvent, nous entendons ça, t'inquiète. Et je pense que Dieu le Père, il devrait souffrir la même chose comme un Père terrestre, il devrait sentir. il laisse Dieu complètement hors de l'image, hors de scénario. Parfois, il abandonne même complètement. Et dans le moment de crise, on peut abandonner Dieu complètement. On peut dire que non, c'est « je crus en vain ». Ce Dieu en qui je crus, il n'est pas capable de me délivrer. Mais si tu viens à Dieu pour un emploi, tu seras très vite déçu. Parce que le Seigneur, il a pourvu beaucoup plus que ça. Tu seras comme un fils prodigue qui languit auprès de courges qui est donnée au pourceau. Et le Seigneur, il avait un festin pour toi, mais toi, tu as voulu que ça. Parfois, il abandonne le Seigneur même complètement et ne le louant plus et en le priant quotidiennement. En négligeant l'assemblée dans laquelle nous nous réunissons pour nous édifier les uns les autres et adorer Dieu. Mais parfois, on trouve que une personne qui était assez régulière pour les réunions, il claque la porte et dit que non, je reste chez moi. Mais on essaye de frapper la porte, la personne, il ne laisse personne entrer, puisque pour être édifié même, il peut dire que non, ça suffit tout cela. Et quelle est notre attitude quand nous traversons un moment de crise? Est-ce que nous sommes toujours en train de prier? Est-ce que nous sommes toujours en train de lire la parole? Est-ce que nous sommes toujours en train de méditer la bonté de Dieu? Est-ce que nous sommes toujours en train de venir aux réunions pour être en communion avec des saints, pour être édifiés? Mais on ne peut pas être édifié tout seul dans la maison. On peut lire la parole, on peut prier, on peut chanter. Mais ce n'est pas la même chose. On ne peut pas être édifié. Le raisonnement est souvent exprimé de cette façon. Laissez-moi d'abord régler ma vie. Alors je pourrai servir Dieu et vivre pour lui. Et certaines personnes, ils veulent régler d'abord leur vie, mettre en règle les choses. Après, ils vont venir. Mais vous pensez qu'ils vont venir comme un homme parfait, accompli? Mais non. Nous sommes tous imparfaits. On est des adorateurs de Dieu, mais on a des imperfections dans notre vie. Mais pourquoi ce cantique « tel que je suis, de rien à moi, je viens tel que je suis » Laissez-moi d'abord régler ma vie, alors je pourrai servir Dieu et vivre pour lui. N'est-ce pas dû à notre orgueil et à notre attitude d'autosuffisance? Vous savez, moi, j'ai tout ce qu'il faut. Moi, je suis sage. Je n'ai pas besoin de conseils des autres. Moi, je sais, mais moi, je me ressource dans la parole de Dieu. Je prie, ça me suffit. Je n'ai pas besoin des autres frères et sœurs. Un sentiment d'autosuffisance. Mais Dieu est en colère si nous cherchons à résoudre nos problèmes sans lui. Dieu considère une telle personne comme maudite. Je vais lire de Jérémie 17, 5 à 7. Jérémie 17, 5 à 7. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ça peut être un autre homme, sinon ça peut être soi-même. Maudit, ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Donc, il y a deux catégories des hommes. Un, bienheureux, béni, et l'autre, c'est maudit. Et l'homme qui confie dans l'Éternel, il est bienheureux. C'est Ce passage de Jérémie 17, il y a une c'est parallèle à le psaume 1. Hein? Où on peut trouver la même image, comme des arbres. Mais le Seigneur dit, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Un bon exemple de mécontentement de Dieu lorsque son peuple ne se tourne pas vers lui pour trouver de la force se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 30, on peut prendre le premier deux versets. Ésaïe 30. Ésaïe 30, le premier deux versets. Lorsqu'elle était attaquée par l'Assyrie, Israël a placé sa confiance en Égypte. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Mais parfois, nous avons la tendance de prendre des résolutions. Mais sans le Seigneur, je vais faire telle chose. Je vais suivre telle chose. Mais sans l'aide de Dieu, on peut prendre parfois les résolutions. Mais ici, il dit... « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre d'Égypte. » Pour chercher un abri sous l'ombre d'Égypte. Ici, nous voyons que le Seigneur condamne Israël pour son péché, en se réfugiant en Égypte. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour Israël, car leur père, Abraham et Isaac, tous deux ont commis ce péché d'aller en Égypte. Vous vous souvenez? Aller en Égypte n'était pas leur problème, mais aller en Égypte sans consulter l'Éternel était le problème. Parce que le Seigneur, comme un enfant, a été... lui-même amené en Égypte par ses parents, comme Dieu l'a dit de le faire. Le problème, ce n'est pas l'Égypte, mais Abraham et Isaac, ils sont partis sans consulter l'Éternel s'ils peuvent aller en Égypte ou pas. C'était ça le problème. Et pareil, les enfants d'Israël, ils ont mis leur confiance en Égypte. Et donc, le Seigneur dit, « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles. » Pour cette raison, Dieu a promis de contrecarrer les efforts d'Israël pour résoudre ces problèmes par elle-même. Le verset 3, l'Isaïe 30, « La protection de Pharaon sera pour vous une honte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. Et l'abri sous l'ombre d'Égypte, une ignominie. » Nous savons dans les deux cas, dans les trois cas, le cas d'Abraham et Isaac, il y avait une honte, n'est-ce pas? Ce roi païen, il a donné la leçon à les deux. Pourquoi vous avez menti? Et parfois, les enfants d'Israël, quand les enfants de Dieu, ils désobéissent à Dieu, qui font les choses contre la volonté de Dieu, ils vont recevoir la leçon du monde. Les païens, ils vont nous enseigner comment se conduire. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sur l'ombre de l'Égypte une ignominie. Isaïe 31, le chapitre après, Isaïe 31, nous allons lire les premiers trois versets. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles et s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. On peut penser que quelqu'un très fort qui peut nous soutenir, qui peut combattre pour nous, quelqu'un à qui on peut trouver un secours, un refuge. Mais le Seigneur dit, l'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancelera, le protégé tombera, et tous ensemble, ils périront. C'est la parole très dure et forte. Nous avons la pensée de l'Éternel quand nous allons confier notre vie, confier à l'homme et pas à Dieu. Oui, Dieu voulait que Israël ait confiance en lui, pas en lui-même. Et encore dans le chapitre 30, je vais lire de versets 15 à 16, chapitre 30 d'Isaïe, 15-16, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et si nous ne méditons pas sur la bonté de Dieu, sur la grâce de Dieu, on ne peut pas avoir la tranquillité et le repos. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. L'idée de foi est devenue à la mode. J'ai la foi. On peut dire que j'ai la foi. Il faut avoir la foi. Souvent, on entend. Et certains utilisent le mot comme le moyen d'indiquer à quel point ils sont spirituels. Ils sont très spirituels. Mais la foi n'est bonne que son objet. Vous pouvez avoir foi à un pont, mais ce n'est pas. Mais si ce pont est construit avec des bois pourris et construit par une classe d'élèves de quatrième année, il n'est pas sage de le traverser. On peut avoir la foi sur un pont, mais s'il est construit par des enfants, est-ce que vous oserez traverser le pont, prendre le pont? Ainsi, la foi spirituelle n'est bonne que si elle est fondée sur Dieu seul. Encore aujourd'hui, Dieu veut que nous mettions notre confiance en lui. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est Jacques 4, 8. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et si vous sentez humilié dans la crise, par des choses qui arrivent, humiliez-vous devant le Seigneur. La parole nous dit qu'il vous élèvera. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 6 à 7. Maintenant, que pensez-vous de le vieux dictème « Aide-toi et le ciel t'aidera » On entend dans le monde « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais la vérité, ce n'est pas « Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes », mais plutôt « Dieu aide ceux qui ont confiance au Seigneur » de tout leur cœur, et ne s'appuient pas sur leur propre compréhension. Dieu, ce n'est pas la quatrième roue, puisqu'il peut rouler avec vous. Mais comment nous traitons Dieu? Et le caractère d'une personne est révélé la plupart du temps pendant la crise. Et c'est facile à être bon et beau dans l'église le dimanche matin. Mais comment nous nous conduisons, comment nous approchons, quelle approche nous avons pendant le moment de crise, quand nous traversons le moment de crise. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5 à 6. Quand nous laissons Dieu de côté dans la résolution des problèmes, une chose est sûre, Dieu nous laisse faire face à ces problèmes par nous-mêmes et sans son aide. Et parfois, nous osons faire des choses nous-mêmes. Et quand nous faisons les choses comme cela, et Dieu nous laisse parfois. Et après, nous trouvons avec beaucoup d'autres problèmes. Une autre chose est possible dans l'acte de discipline de son amour. Dieu pourrait contrecarrer nos efforts pour résoudre nos problèmes à cause de son amour et de sa grâce. Dieu a discipliné Israël bien souvent de cette façon. Et même si Abraham et Isaac ils sont partis en Égypte sans l'aide de Dieu, sans consulter Dieu, et Dieu l'a quand même protégé ses enfants. Alors apprenons de la vie de David. Dans les moments difficiles, regardons vers le Seigneur pour notre force. Faisons confiance dans le Seigneur et soyons fermes en le louant et en le priant. N'abandonnons pas l'assemblée des saints dans laquelle nous nous approchons de lui. Que ce que David a dit de lui-même soit également vrai pour nous. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Nous pouvons parfois traverser ce que nous appelons une crise de foi lorsque la chose en laquelle nous croyons nous laisse tomber. Mais souvent, ce que nous appelions foi n'est qu'une confiance mal placée dans un Dieu que nous avons inventé. Notre confiance était-elle en Dieu ou dans l'idée que nous n'éprouverions jamais ce problème d'un certain type? Le Seigneur était-il l'objet de notre foi ou un ami ou un membre de notre famille qui nous a laissé tomber? Si nous avons placé notre foi en autre chose que la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes assurés de la déception. Rappelez-vous que ceux qui ont confiance en Dieu trouveront la force, la délivrance et le vrai bonheur. Avez-vous confiance dans le Seigneur ou dans vos propres forces? Psaume 20, ceux qui s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Que le Seigneur soit notre délivrance, soit sur le sommet, soit sur le sommet ou dans la vallée de la mort, surtout quand il s'agit du problème de la culpabilité des péchés. Nous devrions apprendre à cultiver l'habitude de dépendre du Seigneur pour tout dans notre vie et non de l'autodépendance, de l'autosuffisance. Le bon moment de vous préparer pour faire face aux crises dans votre vie est maintenant. Mais il faut préparer pour traverser la crise. Ce n'est pas au moment de crise que nous allons prendre la Bible vite fait, lire un psaume qui peut nous conforter, nous consoler. Le psaume 1 dit, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » Et si vous allez lire le chapitre 30 de 1 Samuel, le livre d'1 Samuel, vous allez trouver que comment David il a agi, comment il a réagi par rapport à de son entourage. Il a tout récupéré, tous, même pas un seul qui était perdu. Il a tout récupéré et on peut voir son attitude, comment il agit avec justesse, avec la bonté, avec le fruit d'esprit. Le Seigneur nous aide pour faire face aux problèmes avec son aide et pas sans lui. Que le Seigneur bénisse ta parole. Prions. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce passage que nous avons pu lire et pour méditer, Seigneur, oui, nous voyons que David se fortifiait dans le Seigneur. C'était le secret de sa vie. Seigneur, nous réjouissons de ce psaume que David a écrit. Seigneur, qui est en train de réconforter tes hommes pendant des siècles. Et il continuera encore. Seigneur, aide-nous à méditer ta personne. Seigneur, méditer l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Combien nous sommes privilégiés. Seigneur, combien nous devrions être rattachés à toi. Seigneur, garde-nous de mettre notre confiance sur les choses vaines de ce monde, sur les richesses, sur la puissance. Mais Seigneur, aide-nous à suivre le bon berger qui est seul capable de nous diriger, même quand nous traversons la vallée de la mort. Seigneur, nous donnons toute gloire à toi. Seigneur, tout vient de toi et toute chose est pour toi. Notre vie aussi, Seigneur, nous voulons consacrer entièrement à toi. Seigneur, prends-nous et utilise-nous pour ta gloire. Nous prions tout cela dans le bon nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen.